Aujourd'hui, on parlera de loyauté, de ce que tu es prête à sacrifier pour rester aimée, de manière consciente ou inconsciente. C'est un sujet qui me touche particulièrement et c'est une de mes réflexions du moment. Donc, j'ai voulu la partager avec vous, mais en prenant des exemples réels, parce que c'est des situations réelles, en vous présentant de manière très simple comment la loyauté à un groupe ou à une personne ou à une situation peut vous mener vers votre perte, peut vous pousser à structurer votre vie et vos trajectoires de manière à ne jamais réussir. On parlera des décisions qu'on ne prend pas, des opportunités qu'on laisse passer, des limites qu'on n'impose pas pour maintenir une paix qui coûte plus cher qu'elle ne protège. Si j'ai déjà eu à te dire « j'ai tout pour avancer mais je n'avance pas et je ne comprends pas pourquoi », cet épisode est pour toi. C'est fou comment la loyauté peut enfermer, c'est fou comment la loyauté peut freiner, c'est fou comment la loyauté peut nous faire nous désavouer nous-mêmes pour maintenir un certain équilibre, une certaine paix. J'ai souvent tombé sur des cas où la loyauté minait l'avancée de la personne, avancée tant personnelle que professionnelle. Hein. Ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est le diagnostic que la personne fait elle-même. C'est toujours un « Ah, je sais ce que j'ai à faire, mais je ne le fais pas, je comprends pas, je suis pas assez disciplinée, je suis pas assez motivée, je comprends pas, quelque chose me bloque, même quand je veux commencer à travailler, ou alors quand je veux commencer à m'activer, j'ai la niaque, je sais ce que je dois faire, mais quand il s'agit de le faire, je ne le fais pas. » Et c'est pratiquement toujours le discours de la personne qui souffre de ça. Généralement, pour ne pas dire à tous les coups, le doigt n'est jamais mis sur le vrai problème. Pour la simple raison que personne ne peut se dire « je refuse d'avancer parce que je suis loyale à ma mère » ou alors « je refuse d'avancer parce que je suis loyale à mon conjoint » ou à mon groupe d'amis ou à mon église ou à ce que tu veux. Personne ne peut se dire « je mets ce groupe, cette personne, cette situation au-dessus de qui je suis et je fais le choix, conscient ou inconscient, tu me diras, de stagner dans ma vie pour que l'autre partie ne se sente pas menacée. » On se rend juste compte qu'on ne fait pas ce qu'il y a à faire et on se pose de nombreuses questions. On suit les gourous de la productivité, on met en place des systèmes basés sur leurs recommandations. Ça marche une fois, deux fois, trois semaines et ensuite on retombe dans le train-train quotidien qui est le fait de ne pas s'activer. Et on finit par se dire que, ah ouais, mais c'est moi le problème, parce que finalement, peut-être que je suis défaillante à un certain niveau, ou alors je n'en veux pas assez, ou alors je n'ai pas assez à cœur mes objectifs, ou alors je suis destinée à échouer, tout simplement. Comme j'ai toujours dit, c'est un problème structurel qui devient un problème identitaire. On commence à se qualifier de manière négative parce que la structure en place ne produit pas les résultats escomptés. Quand j'en parle comme ça, ça peut sembler vague, théorique, flou. Donc, on va aller à ma manière. Je vais vous présenter un des cas sur lesquels j'ai travaillé pour que vous puissiez comprendre et surtout vous identifier à sa situation. La jeune dame, on va l'appeler Naomi. Ce n'est pas son vrai nom, je préfère les anonymiser pour que leur privacy ne soit pas exposée. Seul le nom n'est pas le bon, mais la situation entière est correcte à tous les niveaux. Naomi a 38 ans et elle est entrepreneur dans le BTP. Elle a une carrière à travers les continents dans des multinationales, vraiment une carrière très forte. Le genre de parcours qui ne laisse pas de doute sur les compétences de la personne. Après près de 15 ans d'une carrière vraiment brillante, elle décide de rentrer à Abidjan en Côte d'Ivoire qui est son pays d'origine. Elle monte son entreprise dans le BTP et ça marche. Sauf que ça marche, mais ça ne décolle pas. C'est-à-dire qu'elle a de la clientèle, elle a une bonne proposition, mais ça ne décolle pas. Elle a à se nourrir, à payer son loyer. Elle sait qu'elle peut aller plus loin. Elle sait qu'elle a la capacité, elle a déjà prouvé dans de nombreuses entreprises. Mais dans la sienne, ça ne décolle pas. Elle a l'expérience, elle a l'expertise, elle a le réseau potentiel, mais elle se maintient dans un périmètre étroit. Donc, quand elle vient vers moi, elle me parle de volonté, elle me parle de discipline, elle me parle de plafond, justement. Elle me parle de mécanismes qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. Et moi, la question que je me pose pendant qu'elle m'expose sa situation, c'est à quoi est-ce qu'elle obéit sans le savoir? Je commence le travail avec Naomi, on travaille sur son entreprise, naturellement. Elle veut faire évoluer sa structure, elle veut avoir de meilleurs contrats, elle veut avoir un meilleur positionnement. Et on travaille dessus de manière acharnée. Et pendant les séances, je me rends compte d'une chose. C'est une femme très apprêtée. C'est une femme qui prend soin de sa mise. Mais à tous les coups, il y a quelque chose qu'elle ne fait pas. Par exemple, si ses ongles sont bien faits, ses cheveux ne seront pas bien faits. Si ses cheveux sont bien faits, ses ongles ne seront pas bien faits. Si les deux sont bien faits, son habillement ne sera pas aussi apprêté que d'habitude. Il y avait toujours un petit truc qui mismatchait. Et ça, je l'ai relevé. Et c'est la raison pour laquelle je préfère travailler avec des femmes. Parce que les femmes, je les comprends. Je les comprends, je comprends leur non-dit, je comprends leur silence, je comprends ce qu'elles essayent de dire sans le savoir par leur mise, par leurs mots, par leur posture. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Naomi. Donc, pendant une séance, un jour, je lui dis, ah, tes ongles sont très bien faits, ils sont vraiment jolis, où est-ce que tu les fais? Elle me dit où elle fait ses ongles et elle me dit, oh, mais tu sais, je n'en parle pas beaucoup parce que c'est mal vu. Et donc, je lui demande pourquoi c'est mal vu. Elle me dit que c'est mal vu parce que c'est un des instituts les plus chers de la ville. Et quand ses proches, son entourage, lui demandent où est-ce qu'elle fait ses ongles et qu'elle répond, ça crée un malaise. Ça crée un malaise parce que c'est un peu comme si elle essaye de montrer qu'elle est au-dessus des autres. Je lui demande au-dessus des autres comment. Elle me dit, son entourage ne peut pas se permettre d'aller dans ce genre d'institut. Donc, ça crée une gêne. Et là, je lui demande de me parler de son entourage. Elle me dit qu'elle est revenue à Abidjan où elle a retrouvé son groupe d'amis de jeunesse qui n'avait pas bougé, qui n'a pas changé géographiquement, socialement ou même économiquement. Donc, elle est parmi son groupe d'amis celle qui s'en sort le mieux. Elle vit dans les beaux quartiers, ses enfants sont dans les meilleures écoles et ses amis ont souvent ce comportement-là qu'elle ne peut pas mettre en mots mais qui lui fait comprendre qu'elle est un peu trop. Donc, pour continuer de fit in, généralement, elle ne partage pas son quotidien, du moins elle ne partage que les pans qu'elle estime que ses amis pourraient comprendre et accepter. Elle ne partage pas les plaisirs qu'elle s'offre, elle ne partage pas ses projets et elle essaye même de ne pas en avoir trop ou de ne pas en faire trop pour ne pas heurter au cas où les amis apprendraient ce qui se passe. Dit comme ça, ça peut sembler stupide, mais j'ai compris quel était son véritable problème. Son problème n'était pas un problème de structure, bien qu'elle n'avait pas une réelle structure pour son entreprise. Son problème n'était pas un problème de positionnement, bien qu'elle n'était pas vraiment positionnée pour son entreprise. Son problème, c'était la loyauté à son groupe d'amis qui faisait en sorte qu'elle ne structurait pas comme il fallait pour avancer, qu'elle ne se positionnait pas comme il fallait pour avancer. Elle se mettait des barrières pour ne pas heurter, pour ne pas se retrouver dans une position où elle serait encore plus éloignée socialement, financièrement de ses amis, et elle ne serait pas acceptée par elle. Ce que ces frictions ont produit chez elle, ce n'était pas de la colère ou de la distance assumée, c'est une vigilance permanente, un ajustement constant de ce qu'elle montre, de ce qu'elle dit et de ce qu'elle ose. Et le plus beau dans ce genre de cas, c'est que ses amis n'ont pas imposé quoi que ce soit. Ses amis ne lui ont jamais dit on ne veut pas que tu ailles faire tes ongles dans cet institut-là. Elles lui ont jamais dit, on ne veut pas que ton entreprise ne décolle. Elles lui ont jamais dit, on ne veut pas que tes enfants soient dans les meilleures écoles. Ça n'a jamais été frontal, ouvert, mais elle a compris de manière insidieuse que si elle continuait à vivre à son rythme, elle perdrait ses amis d'enfance. Elle s'est donc imposé une règle silencieuse et totalement inconsciente, ne pas prendre trop de place, ne pas creuser trop l'écart, Et cette règle silencieuse structure tant sa vie personnelle que professionnelle. Tout à l'heure, on a parlé de sa mise. Elle n'ose pas être correcte partout en même temps. Il faut toujours laisser la place à... Comment est-ce que je vais dire ça? Il faut toujours laisser la place à un raté. Il faut qu'il y ait un raté quelque part pour que les autres comprennent qu'elle n'est pas différente d'elle. Il faut qu'il y ait une limite, il faut qu'il y ait une imperfection pour que ses amis puissent s'identifier à elle. Sinon, elle est trop différente. Et c'est drôle parce que dans le travail qu'on faisait pour son entreprise, c'est-à-dire la structuration, le positionnement, l'affinement des offres, elle arrivait à comprendre ce qu'on faisait ensemble, elle était prête à le faire, mais je sentais quand même un blocage, aller plus loin lui poser problème. Et cette discussion sur les ongles-là m'a permis de mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Un mécanisme obéit toujours à quelque chose. Et la question à se poser, c'est à quelle peur est-ce qu'il répond? Parce que ce comportement de limitation de soi-même, c'est forcément une réponse à une peur. C'est forcément un ajustement à une situation qu'on ne veut pas voir se réaliser. Naomi était convaincue que la peur qu'elle avait, c'était la peur de l'échec. Pourtant, quand on est allé plus loin dans la discussion, il ne s'agissait pas de la peur de l'échec, mais plutôt de la peur de l'abandon. Ce que Naomi porte concrètement en elle, c'est la conviction qu'un écart trop visible avec ses amis ferait en sorte qu'elle les perde définitivement. Quand on a commencé à creuser cet aspect-là, elle a pu se rendre compte des croyances vraiment très, très forte, très ancrée en elle, dont elle n'avait pas conscience. Naomi dit ceci. Elle dit que ses amis, elle les connaît depuis l'enfance, depuis l'adolescence, depuis avant son départ pour d'autres continents pour mener sa carrière professionnelle. Donc pour elle, ces personnes-là font partie intégrante de sa vie. Quand on a abordé la question de la qualité de ces relations-là, elle s'est rendue compte, ou alors elle le savait déjà quand même, hein, d'une certaine manière, sans vouloir se l'avouer, que ces relations n'étaient plus nourrissantes pour elle. Parce que ses amis n'étaient pas forcément des personnes ambitieuses, et elle voulait vraiment aller plus loin. Ses amis n'étaient pas forcément des personnes, inclusives. Il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de jalousie, on va pas se mentir, beaucoup de frictions qu'elle ne supportait pas, mais elle se disait, ce sont mes amis d'enfance, elles sont comme ça, je vais devoir les supporter comme ça. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que ça signifierait pour toi d'avoir de nouvelles amies? Elle me dit, à 38 ans, on ne peut pas se faire de nouvelles amies. Les amitiés les plus fortes, les amitiés les plus solides sont celles qui ont traversé le temps avec nous. Donc, ces amies-là ont traversé le temps avec moi, elles m'ont vu au plus bas, elles m'ont vu au plus haut et elles ont été là. Et la question que je lui ai posée, c'est, elles t'ont vu au plus bas, elles ont été là. Mais est-ce qu'elles t'ont vraiment vu au plus haut? Parce que la raison pour laquelle on est assise ici aujourd'hui pour cette session, c'est justement parce que tu n'arrives pas à atteindre ce plus haut. Il y a une barrière. Et cette barrière-là est mise justement par ces amis, cette relation-là, qui t'interdit d'aller plus loin. Parce que si tu vas plus loin, tu perds ta carte de membre du groupe. Ce qui est problématique dans son cas, ce sont les décisions que cette conviction l'amène à prendre. C'est le comportement que cette conviction impose de manière inconsciente. C'est-à-dire que le fait de penser qu'il faut rester proche de ces personnes qui la malmènent, parce qu'elle la malmène sur le plan psychologique, fait en sorte que elle structure sa vie de manière à ne jamais aller trop loin, de manière à ne jamais viser la perfection, de manière à ne jamais être bien sur tous les fronts. Il faut toujours que quelque chose ne marche pas pour qu'elle puisse continuer à faire partie d'un groupe où personne n'évolue, où personne ne s'envisage meilleur, où personne ne se voit plus loin qu'il n'est. En réalité, un groupe pareil fonctionne et vit sur la réalité selon laquelle personne n'évoluera. Parce qu'une fois que quelqu'un évoluera, ça mettra tout le monde face à ses limites. Donc, quelqu'un peut évoluer. Ça veut dire que le problème, c'est moi. Ce n'est pas l'économie du pays. Ce n'est pas le grand-père au village. Ce n'est pas ci ou ça. Si elle a pu le faire, ça veut dire que je peux le faire aussi. Sauf que c'est un miroir violent qui pousse à se poser des questions existentielles que personne ne veut se poser. Donc, pourquoi on n'en arrive jamais là? Il est meilleur que nous restions tous dans la boue, que personne ne sorte et ne se nettoie, ne se lave. Et là, on est tous pareils. Ça nous conforte dans la croyance selon laquelle ce n'est pas notre faute, c'est juste notre destin. La vérité, c'est que une peur qui dure ne reste pas une émotion. Elle devient une architecture de décision. Naomi a construit, sans le savoir, un plafond volontaire. Elle n'a pas structuré son entreprise pour la réussite, malgré tous les avantages qu'elle a en termes de connaissances, de compétences et de réseau. Elle ne s'est pas positionnée pour être vue. Parce que si elle est vue, on comprendra qu'elle est capable, et si on comprend qu'elle est capable, elle aura de gros contrats qui l'amèneront encore plus loin et qui l'éloigneront de ses amis. Elle refuse de faire la moindre communication sur son entreprise parce qu'elle te dira « je ne veux pas être vue, je préfère rester dans l'ombre, je veux pas être sur les réseaux sociaux, c'est trop de bruit de ce côté-là, je veux une réussite silencieuse, je veux une entreprise qui marche et personne ne sait qui est derrière. » Elle a pris un exemple intéressant, elle a pris l'exemple d'une grande banque. Elle me dit, voilà, il y a cette grande banque, j'ai mon compte dans cette banque-là, mais je ne sais pas qui l'a. On ne voit jamais le directeur général, on ne voit jamais le fondateur de la banque, on ne sait pas qui est derrière, mais la banque marche, et puis elle génère beaucoup d'argent et tout le monde s'en sort derrière. Et c'est ce genre de réussite que je vise. Et je lui ai dit, mais je suis désolée, en fait, tu n'as rien compris au positionnement. Tu n'as rien compris à ce que ça signifie de communiquer sur son entreprise. Tu estimes que toi, en tant que petit client, tu devrais connaître le DG. Si tu ne le connais pas, ça veut dire qu'il ne communique pas. La vérité, c'est que tu n'es pas la cible. C'est-à-dire que tu es la cible, même pas tertiaire. Tu es au niveau 7 du type de cible qu'on vise. Le fondateur, le DG, n'ont pas besoin de toi pour avancer. Ils n'ont pas besoin que tu les connaisses pour faire leur argent. Par contre, ils sont connus dans les cercles qui comptent. Ils sont connus par les DG d'entreprise de ce pays qui viendront domicilier les comptes de leur personnel dans cette banque-là. Ils sont connus chez les hommes d'affaires internationaux qui font des business et ont besoin de prêts. Ils sont connus là où ça compte et tu ne comptes pas. C'est pour ça que tu ne les connais pas. Donc, n'essaye pas de copier ce que tu estimes être un mécanisme alors que tu ne comprends pas son fonctionnement. Eux, ils sont connus là où ça compte et toi, tu n'es connu nulle part, raison pour laquelle tu n'évolueras pas. Et là, on a un paradoxe opérationnel. Elle travaille, elle s'investit, elle avance, mais dans un couloir étroit qu'elle s'est elle-même tracé. Elle reste sous les radars, pas par discrétion naturelle, mais parce que la visibilité est devenue dangereuse dans sa tête. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas un manque de volonté, c'est pas un problème de compétence, c'est un calcul. C'est un calcul inconscient, mais qui reste un calcul et un calcul fort. Et ce type de calcul est une décision de structure. Et comme toute décision de structure, elle peut être revisitée, mais seulement si on se rend compte du calcul qui dirige tout. Donc la question à poser, c'est qu'est-ce qui change quand on voit le calcul? Voir le calcul ne suffit pas à le défaire, mais c'est la condition sans laquelle rien ne bouge. Outre le travail de fond sur l'entreprise, c'est-à-dire les offres, c'est-à-dire les finances, c'est-à-dire le positionnement, quelque chose de profond mais de silencieux s'est passé. Un changement réel. Naomi a arrêté de traiter son excellence comme une menace à neutraliser. Grâce à notre travail ensemble, elle s'est redonné la permission de performer correctement, sans attendre que son entourage soit prêt, sans chercher à rendre son succès acceptable et surtout sans ajuster son périmètre. Avant, la question c'était « jusqu'où je peux aller sans perdre mes amis ?» Aujourd'hui, la question c'est « qu'est-ce que je veux construire ?» dans son entreprise, elle a commencé à regarder les gros contrats différemment et la visibilité a cessé d'être une menace. Tu me demanderas qu'en est-il de la peur de l'abandon? Est-ce qu'elle s'en est allée? La vérité, c'est que on ne se débarrasse pas facilement de ce type de peur. Mais quand on comprend les mécanismes en jeu et qu'on arrête d'avoir un regard subjectif sur la situation et qu'on passe un regard objectif, on gère. En ce qui concerne les amitiés, Naomi a compris quelque chose de fondamental. Une amitié doit te pousser toujours vers l'avant et te tirer toujours plus haut. Si une amitié te tire vers le bas, quel que soit le nombre d'années, quel que soit ce que vous avez traversé, si une amitié te tire vers le bas, ce n'est pas l'amitié pour toi. Ça fait mal, ce n'est pas plaisant, mais quel est l'intérêt à être entouré de personnes qui considèrent que ton avancée est une menace, qui considèrent que tu as un problème parce que tes enfants sont dans les meilleures écoles, qui considèrent que tu ne dois pas être apprêté complètement. Il faut que tes cheveux ne soient pas faits, que tes ongles ne soient pas faits, que ta tête ne soit pas apprêtée pour que tu puisses être accepté. Quelle est cette amitié qui te demande d'être médiocre? Demander, c'est peu dire. Qui exige de toi la médiocrité pour pouvoir fit in dans un environnement de médiocre quand toi, tu as des ambitions? Elle a également compris que les amis, ce n'est pas forcément le nombre d'années, c'est la qualité de l'interaction. On a terminé l'accompagnement ensemble. Elle continue de travailler sur sa peur de l'abandon. Mais le plus important, c'est qu'elle a compris les mécanismes autour, ce qui lui permet de mieux naviguer l'éloignement de ses anciennes amies-là, parce qu'elles ont des anciennes amies aujourd'hui, et le rapprochement vers des personnes qui sont plus alignées à ce qu'elle veut pour elle-même. Toutes les femmes qui vont se reconnaître dans ce problème de loyauté ne vivent pas exactement la même situation que Naomi, mais beaucoup reconnaîtront le mécanisme. Ça peut prendre différentes formes. Le conjoint qu'on ne veut pas dépasser, la famille qu'on ne veut pas embarrasser, le milieu professionnel dans lequel on ne veut pas devenir inconfortable. La vraie question ici, ce n'est pas est-ce que tu as des amies jalouses? Non. C'est à quoi est-ce que tu obéis sans le savoir? Quel est l'équilibre que tu maintiens et à quel prix? Ce qui rend ce frein difficile à identifier, c'est qu'il ressemble à de la loyauté, à de la fidélité, à de la modestie, l'humilité, qui sont considérées comme des qualités. Et c'est ça qui le rend si efficace et si coûteux. Vous me direz, ça demande du courage. Non, ça ne demande pas du courage au sens dramatique du terme. Ça demande de la précision. Si tu t'es reconnu dans l'histoire de Naomi, je ne dis pas qu'elle t'a juste touché. Si tu t'es reconnu dans son histoire, c'est peut-être que le problème auquel tu fais face n'est pas là où tu cherches. Tu mets des mécanismes en place, tu t'organises, tu avances et rien ne tient. Ce n'est pas un problème d'effort, c'est peut-être une loyauté silencieuse que tu portes sans le savoir et qui structure ta trajectoire autrement que ce que tu veux. J'ouvre des places pour mon accompagnement individuel qui dure 3 mois. Un travail de fond pour identifier ce qui organise vraiment tes décisions, décider autrement et surtout structurer ta trajectoire. Je te mets le lien en description de cet épisode. Sur ce, people, bye!